Bonjour. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 13 novembre 2005. Je suis Ole Terkelsen, le conférencier de Copenhague, Danemark. Je ferai une conférence aujourd'hui au Cercle Nina Kahlo, au Hôtel Bedford, rue de la Carte, à Paris. C'est numéro 17. Le thème pour la conférence aujourd'hui, c'est « Quand la prière devient science ». Et Martinus a écrit un petit livre, « Le mystère de la prière », qui est le thème de la conférence.
Présenté, Ole Terkelsen. J'espère que je n'écorche pas trop votre nom. C'est bien
parfait.
La prononciation. Voilà. Alors, je vais vous laisser la parole, hein, « Quand la prière devient science », d'après Martinus.
Merci beaucoup. Oui, je voulais parler sur le thème « la prière ». Selon le philosophe danois Martinus, il est presque inconnu en France et il était né au Danemark en 1890. Et il est décédé en 1981, à l'âge de 90 ans. Et quand il a eu 30 ans, il a eu une initiation, une révélation, il a eu un élargissement de son conscience. Il a dit, après cet événement, il a eu une conscience cosmique. Il a pu vivre le cosmos. Il a pu vivre la conscience de Dieu. Il a pu vivre que tout le cosmos était un être vivant. Et il a eu un don intuitif. Il dit qu'il n'est pas un philosophe. Il était assez humble, il a dit, il a seulement eu le don de vivre par l'intermédiaire de l'intuition. Il n'a pas inventé une image du monde, il a vécu en image du monde. Ça veut dire, il dit, avec l'intuition, il a eu accès à l'océan de connaissances. Il a pu vivre les lois, les principes cosmiques, les lois, les principes de la vie. C'est pas son invention, c'est pas moi. J'ai seulement eu un don de vivre les principes. Et après, il a décrit les choses. Mais il ne l'a pas présenté comme une autorité. Il a expliqué pourquoi c'était la vérité. Il dit, moi, je décris la vérité. J'ai vécu la vérité, mais c'est un postulat. Il peut être en autorité. Mais il s'est décidé d'expliquer pourquoi c'est la vérité. Et comme ça, il a écrit des analyses cosmiques. Il a expliqué pourquoi c'est la vérité. Et il a expliqué que tout l'univers est un être vivant. Si on prend la somme de tout ce qui existe, c'est le même comme Dieu. Mais il a aussi expliqué que Dieu a un corps physique. Dans la définition, Dieu est tout simplement tout ce qui existe. Ça veut dire que tous les êtres vivants sont des cellules dans le corps de Dieu. Et tout l'univers est construit selon un principe des unités de vie. Ça ressemble un peu avec les poupées russes. Quand on ouvre une poupée, il y a une autre poupée. On ouvre, il y a une autre poupée. On ouvre. Si on prend un homme, c'est un être vivant. Mais nous sommes construits des organes. Les organes aussi sont des êtres vivants. Et dans les organes, il y a des cellules. Mais les cellules, eux aussi, sont des êtres vivants. Et ils continuent parce que grâce à l'intuition, ils peuvent vivre voir que les molécules sont des êtres vivants, les atomes sont des êtres vivants, les électrons, et ça ne s'arrête pas, ça continue infiniment dans le microcosmos. Mais la science avec les microscopes et comme ça, il ne peut plus voir, mais ça continue. Il pense aussi que la planète Terre, c'est un être vivant, le système solaire est un être vivant, la galaxie est un être vivant, ce sont des êtres vivants dans des êtres vivants. On ne peut pas avoir un organisme vivant si cet organisme n'est pas construit des êtres vivants. Et enfin, si on prend la somme de tous les êtres vivants, quel est le résultat? C'est un être vivant. Et selon les descriptions cosmiques de Martinus, cette totalité est aussi une unité, on prend ce que c'est normalement, mais si par exemple on prend le christianisme, il prend quel est le somme, le point de vue chrétien, il y a le diable et le Dieu. Et le diable, c'est la cause de toutes les choses mauvaises, les ténèbres, et Dieu est la cause des choses. Si on prend la somme, on a une totalité, mais cette totalité n'est pas une unité. Parce qu'il y a deux forces, il y a le Dieu et le diable. Comme ça, cette unité, c'est pas en unité, mais c'est ce que Martinus a expliqué. La somme de tous les êtres vivants, c'est vraiment une unité, et c'est Dieu. Martinus a expliqué les ténèbres. Il a défendu les ténèbres. Il a justifié les ténèbres et les mauvaises choses. C'est un peu compliqué de le faire dans cette conférence, peut-être c'est le temps, mais pour le faire très rapidement, il dit c'est absolument nécessaire avec les contrastes. Sans contraste, on ne peut rien vivre. S'il y était une fois, on était très 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 malheureux. Après, on peut devenir très 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 heureux. C'est au fond de la malheur, on peut être très heureux. Si on peut jouir, il fait chaud, c'est très agréable. De où est-ce qu'on sait que c'est agréable, qu'il fait chaud? Parce qu'on a vécu le froid. C'est toujours, ça veut dire, les deux contrastes ont la même importance. Et c'est dans la loi, on peut seulement vivre une chose si on a déjà vécu le contraste. Ça veut dire, c'est absolument, les ténèbres sont nécessaires si on a toujours vécu dans la lumière, si seulement la lumière existait. On était ébloui ou aveugle, c'était seulement lumière, 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 mais on peut jouir la lumière parce qu'on a vécu les choses désagréables, parce qu'on a vécu. Et d'autrement, Martinus a expliqué, il a écrit un petit livre qui s'appelle l'Évangile de Noël. C'est un livre sur le Christ. Et on dit que le Christ, c'est le Fils de Dieu. Mais nous sommes tous fils de Dieu. Ça veut dire, il dit, le but du monde physique, c'est évolution. Dans le règne animal, le règne végétal, après le règne animal, le règne de l'homme. Et le but du monde physique, c'est de devenir un homme comme le Christ. Que devenir un homme achevé, un homme parfait. Le monde physique, c'est l'école de la vie. Et c'est aussi l'arbre de connaissance, parce que chaque fois qu'on a fait une expérience, on s'est développé. Et pour le don le plus valeureux peut-être, c'est l'amour, c'est la compassion. Mais d'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'on peut aller à l'université et devenir un homme avec beaucoup d'amour? C'est le résultat des étudiés? Non. On peut améliorer l'intelligence par l'intermédiaire des études sur les livres qui est écrit sur le base de l'intelligence. Mais pour développer la compassion, pour développer les sentiments, il faut faire des expériences, des pratiques. Et ça veut dire, quand on a souffri soi-même, on peut sentir avec les autres. Quand on a senti les choses sur soi-même, on peut sentir avec les autres. Et c'est de l'amour. Et ça veut dire que les ténèbres, les choses désagréables, ont un but. C'est de développer notre amour. Et comme ça, c'est pas quelque chose de diabolique, mais c'est toujours désagréable. Mais quand même, c'est bon. Et Martinus a souvent fait référence à la Bible. Après 6 jours, Dieu a créé le monde. Et la conclusion, le résultat, c'était tout est très bon. Et tous les analyses de Martinus, il a écrit 8000 pages. Et le résultat est toujours tout est très bon. Nous vivons dans le monde le meilleur possible. Mais souvent, on ne le croit pas parce que c'est très, très désagréable. Mais pour faire un homme avec un amour pleinement évolué, il faut faire des expériences. Et c'est bien, si on souffre beaucoup, c'est bien de savoir qu'il y a un sens, il y a un but. Et c'est l'évolution à la perfection. Il faut manger des pommes amères de l'arbre de connaissance. Mais à la fin, on a vécu. Je voudrais aussi rapidement dire, il y a un petit livre ici où Martinus a décrit son initiation. Ce qu'il a vécu, comment il a eu cette conscience, cosmique. Et il a écrit cet livre, Le mystère de la prière. Et ici, il a décrit les lois de la prière. Et il y a une surprise pour beaucoup des hommes que la prière est une science. Il y a des lois et des règles. Et naturellement, c'est très important de comprendre la nature de la prière, les règles, les lois, parce que si on ne le sait pas, on est souvent mécontent. Et je me suis décidé pour avoir un peu de structure dans ma conférence d'essayer d'écrire 5 stades dans l'évolution de la prière. Mais je voudrais ajouter avant que nous, comme nous sommes des hommes, mais nous sommes aussi des dieux. Moi, je suis un dieu pour mes organes, mes cellules, mes atomes. Et ici, il y a aussi le principe de la prière. Si j'ai mal à le genou, c'est dans la prière. Des cellules dans le genou, et ils prient à moi d'être aimé. Si dans la soirée, je suis très fatigué, c'est en prière des micro-individus, nous voulons avoir de la repos. Nous voulons dormir, mais peut-être je suis un diable cruel et continue le travail à l'ordinateur. Comme ça, je n'ai pas entendu les prières de mes macro-individus. Mais normalement, je suis intéressé de satisfaire mes micro-individus parce que c'est un avantage pour moi. Si mes micro-individus, mes organes vont bien, moi aussi. Et c'est la nature de la prière. Si la prière, c'est toujours les petits qui demandent de l'aide d'un être plus grand. Mais l'être plus grand est intéressé d'aider les petits parce que c'est aussi d'aider soi-même. C'est un de la nature, mais c'est bien de savoir ce principe. C'est pas seulement les hommes qui prient à Dieu. Et en fait, l'homme de terre est aussi un ange gardien. Et c'est la terre terrestre, notre planète aussi est un être vivant. Et c'est notre ange gardien le plus proche dans le macrocosmos. Et Martinus dit, il y a beaucoup d'êtres comme le Christ dans les corps spirituels. L'homme a des corps spirituels, n'est-ce pas? Mais aussi, la planète Terre a aussi des corps spirituels. Et dans ce corps spirituel, il se trouve des êtres comme le Christ. Et ça veut dire qu'en fait, on a toujours des organes. Je peux écouter avec les oreilles, je peux voir avec les yeux. On a tout, chaque fois qu'il y a une fonction, on doit avoir un organe pour cette fonction. Et dans la même manière, Dieu a aussi des yeux, Dieu a des oreilles. Et ces êtres, les anges gardiens qui sont dans le corps spirituel de la terre sont les oreilles de Dieu. Et il peut écouter notre prière. Mais je voudrais, pour avoir un peu de structure, comme je l'ai déjà dit, qu'il y a 5 stades dans la prière. Et au commencement, on utilise la prière parce qu'on veut avoir une chose. C'est ce que je veux avoir beaucoup de l'argent, je veux avoir une maison, je veux avoir de la travail. On prie parce qu'on veut avoir quelque chose. C'est presque comme les petits enfants à Noël. On a une grande liste, on a des vœux, je veux avoir des choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui utilisent la prière dans cette façon. Ils prient seulement pour avoir des choses. Mais peut-être est-ce qu'il y a une femme, et là, une fille, elle est très malade. Et chaque jour, elle prie à Dieu pour qu'elle ait en bonne santé. Elle désire un miracle. Et elle prie, mois après mois, une année après l'autre. Et elle prie, mais l'enfant reste malade. Et à la fin, elle est très mécontente. Elle n'est pas contente avec Dieu. Elle pense que Dieu ne m'écoute pas, Dieu n'existe pas. Dieu est presque comme le diable. J'ai prié et prié des heures après des heures. Il n'y a pas de résultat. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cessé d'aller à l'église. Parce qu'il a prié d'une chose, il n'a pas reçu cette chose. Et après, il ne croyait pas plus à Dieu. Mais c'est parce qu'il n'a pas prié dans la juste manière. Ils n'ont pas tout compris. Et Martinus a expliqué, ici c'est une petite introduction de la cosmologie, et il y a un petit article de Martinus qui s'appelle « Le jardin de Gethsémane ». Et ici, le Christ a démontré comment on peut prier justement. Parce que c'était prophété qu'il doit être crucifié, tué. Et quand même, c'est assez désagréable. Il y a eu un film de Mel Gibson, Le Passion, où on a montré comment il est torturé pendant 9 heures avant la mort. C'était tellement brutal et dur. Et naturellement, on voudrait bien éviter ces souffrances. Et il a prié à Dieu, et je ne sais pas correctement les citations dans la Bible française, mais il a appris que ce calice ou cette coupe va s'éloigner de lui. Et ça veut dire qu'il a prié d'éviter la souffrance. Mais il a ajouté que pas moi, mais ton volonté soit faite, ou quelque chose comme ça. Et ça veut dire, à la fin, il a prié que c'est la volonté de Dieu qui soit faite. Et c'est toujours tout ce qui se passe. Ça veut dire, on a le droit de désirer quelque chose, de prier. Ce voudrait bien avoir que ça marche comme ça. Mais si Dieu pense quelque autre, je veux que ça passe comme Dieu veut et pas comme moi. Et si on a telle attitude, c'est l'attitude le plus haut dans le monde. C'est une pure magie. Et dans le Bible, c'est décrit qu'il vient un ange à Jésus-Christ. Un bel ange, et cet ange a donné de la force, de l'énergie, de l'inspiration. Et Martinus peut garantir que chaque fois on est sur cette longueur d'onde, qu'on veut faire les choses comme Dieu veut, on a concentré sur le Dieu et veut faire ce que Dieu veut. C'est tellement magique. Mais normalement, sinon on n'est pas voyant et des choses comme ça, on ne peut pas voir l'ange gardien. Mais Martinus veut garantir que cet ange de gardien veut rentrer dans notre aura et donner nous de l'optimisme, de force de vivre et envie de vivre. Parce qu'il y a une loi de karma. Il y a dans l'école de la vie, il y a certaines choses à apprendre. Peut-être est-ce que cette femme, elle doit apprendre quelque chose. Si elle a un enfant handicapé pendant 20 années, c'est une leçon pour elle qui est nécessaire dans sa évolution. Et d'autre côté, cette maladie était aussi absolument nécessaire pour la fille. Et ça veut dire que c'est absolument nécessaire pour l'évolution de la mère et de l'enfant. Et en fait, c'est pas de l'amour de faire un miracle. Parce que ça veut bloquer l'évolution de la mère et de la fille. On ne peut pas le comprendre, mais en fait, c'est l'amour de Dieu. C'est l'effet de l'amour de Dieu qu'elle reste malade, parce que pour elle, c'est nécessaire. Mais il y a aussi des cas, c'est pas plus nécessaire. Il peut se passer un miracle, parce qu'elle a déjà appris, ou ça peut être qu'elle est guérie par un miracle, mais elle n'est pas encore finie avec la maladie. Et si elle continue de faire les choses qui a déclenché la maladie, elle va retomber à la maladie après. Ça veut dire, c'est quand il s'agit de la prière conscience, il faut comprendre, le but de la prière, c'est ne pas de changer la loi du karma. Il y a souvent, on peut devenir très mécontent avec la prière. Si on prie que la loi du karma se change, mais la loi du karma ne peut pas se changer, et on est très déçu. Mais on peut apprendre de prier dans une manière tellement qu'on n'est jamais déçu. C'est parce que quand on priait dans une manière erronée, avec des fautes, après, on est déçu. Mais si on prie dans la juste façon, on n'est jamais déçu. Le deuxième stade, c'est pas ce qu'on veut prier pour avoir des choses, mais on peut prier pour avoir de l'énergie. Si on, par exemple, est malade, on a beaucoup de souffrances, on peut prier, donnez-moi de l'optimisme. Donnez-moi de foi, donnez-moi de l'énergie d'espoir, donnez-moi de force de vivre, envie de vivre. Et Martinus souligne fortement, c'est vraiment une source d'énergie, de force. On peut vraiment avoir, et il a dit, ça peut apparaître comme les problèmes sont très grands, mais on peut apprendre d'utiliser la prière dans une telle façon que les grands problèmes est comme des bagatelles. C'est pas la grandeur des problèmes, mais c'est comment est-ce que je vais vivre les problèmes. Et avec la prière, on peut avoir une telle force que les choses qui étaient des grands problèmes avant, après, étaient un peu bagatellisées parce qu'on a le fort, le pouvoir. Et je voudrais aussi dire, avec cette image du monde de Martinus, on peut avoir une explication logique pourquoi est-ce qu'on doit souffrir. Si c'est par ça on a en souffrance, je ne suis pas la cause, les autres sont la cause, c'est quelque chose de diabolique, il n'y a rien de sens là-dedans. C'est très difficile de prendre des souffrances. Il y a souvent les gens qui se suicident parce qu'il n'y a pas de sens dans la vie. Mais en fait, on peut prendre beaucoup, beaucoup de souffrances si on peut comprendre qu'il y a un but avec les souffrances. Premièrement, on est soi-même la cause de toutes les maladies et tous les problèmes. Mais deuxièmement, c'est que le but, c'est que je suis transformé dans un être comme le Christ. N'est-ce pas? C'est un projet merveilleux, n'est-ce pas? De devenir un Christ soi-même. Mais c'est une longue évolution. Et si on peut sentir dans les souffrances, dans la maladie, c'est Dieu qui travaille avec moi. Moi, je suis la cause qui fait des expériences nécessaires dans ma... Mais il y a un but, c'est parce que Dieu est très aimable. Dieu veut me transformer dans son Christ. Merci beaucoup. Mais de temps en temps, c'est très douloureux. Mais c'est pas le travail de la diable. C'est toujours Dieu qui travaille avec moi. C'est le bon désagréable. Mais le deuxième stade, c'est qu'on utilise la prière pour avoir de la force, de l'énergie. Et dans ce livre, Le mystère de la prière, Martinus a expliqué les différentes phrases dans la prière Notre Père. Et il a expliqué, on priait d'avoir le pain de ce jour. Mais c'est pas seulement le pain, c'est aussi toutes les choses qui sont nécessaires pour moi. Il faut avoir quelque chose à manger, il faut avoir quelque chose à boire, il faut avoir un endroit à vivre, un travail, un ami, des enfants, de la sexualité. Ce sont des choses qui sont nécessaires pour moi. Ce n'est pas nécessairement que ce sont des prières égoïstes. Si on prie à Dieu, donnez-moi 1 milliard d'euros. Je veux gagner le médaille d'or. Moi, je veux être le président du Danemark, le président de France. On a des prières comme ça. Mais il y a beaucoup de monde qui a des prières comme ça. Et Dieu est très aimable. Il y a 10 personnes qui veulent être président, mais seulement un peut être. Ça veut dire, 9 doit être très déçu. Ça veut dire, ce sont des prières égoïstes. Je veux avoir 1 milliard d'euros et les autres veulent. C'est pas nécessaire. Il n'y a pas suffisamment de l'argent dans le monde. Et s'il y a une femme très belle, Brigitte Bardot, il y a peut-être 10 hommes qui a prié, je veux me marier avec elle, mais c'est pas possible. Et s'il y a d'autres qui a déçu, ça veut dire si on a des prières où on veut avoir quelque chose que les autres veulent aussi avoir, et il est déçu et malheureux qu'il ne peut pas c'est illogique. Mais normalement, on peut dire en prière égoïste, on veut avoir beaucoup, trop. Et quand on reçoit ce qu'on veut, c'est trop peu pour les autres. Ça veut dire, si mon prière est satisfaite, il y a des autres qui seront pauvres. Et ça veut aussi dire, si on regarde Dieu comme la totalité. En fait, il y a seulement 2 êtres vivants dans l'univers. C'est moi et mon entourage. C'est moi et le cosmos. Et mon entourage, le cosmos, c'est un être vivant. Ça veut dire que mon expérience de la vie, c'est un langage, une parole entre 2 êtres vivants, entre moi et la totalité, entre moi et Dieu, entre moi et la totalité. Et ça veut dire, si j'ai une prière qui n'est pas bonne pour la totalité, est-ce que la totalité veut le supporter, veut l'admettre? Naturellement pas. Si je veux faire des choses qui ont un désavantage pour la totalité, la totalité n'est pas content avec ce. Si je priais de faire quelque chose qui a un avantage pour la totalité veut dire, mais oui, naturellement, on a tout le soutien. Tout ce qui est bien pour la totalité est soutenu de la totalité. Et toutes les choses dans les prières qui ont sabotage à la totalité n'est pas soutenu de la totalité. Dans l'écologie, la biologie, moi je suis un scientifique, j'ai aussi étudié l'écologie, mais c'est très simple, si on met des substances toxiques dans la nature, on va vivre dans une ambiance intoxiquée. C'est très illogique. Si je veux vivre dans un monde beau et belle, il ne faut pas empoisonner l'entourage, il faut le traiter bon. Et c'est le même dans la prochaine vie. Si on est égoïste, on détruit l'entourage. Si on est trop égoïste, c'est un désavantage pour la totalité. Mais il y a une exception, et c'est cette qu'on a le droit de prier pour le pain de ce jour. Parce que si je prie à Dieu d'avoir une bonne santé, c'est une prière pour moi-même. Et d'autres voulaient dire, ah, tu es un égoïste, tu as prié pour une bonne santé pour toi-même. Mais c'est un avantage pour la totalité que je suis en bonne santé. C'est pas un désavantage pour la totalité. Comme ça, la totalité peut soutenir que je me sens bien dans ma peau. La providence peut me donner des vêtements de travail, choses, la sexualité, les amis, comme ça. Ça ne dérange pas la totalité. En fait, c'est seulement un avantage pour la totalité que je suis en pleine forme. Et d'autres, si on comprend ce principe des unités de vie, on comprend, c'est pas égoïste. Si je prie pour une santé très bonne, je prie pour mes organes, mes cellules, mes molécules. Et comme ça, c'est aussi de pratiquer l'amour du prochain, de prier pour la santé. C'est pas égoïste. Et c'est ce qu'il faut comprendre. On a le droit de prier sur des choses pour soi-même. Si c'est un avantage pour la totalité. Mais il y a d'autres, on prie des choses, il y a certaines ressources sur la terre. Et si je veux avoir beaucoup de ce gâteau, il y a d'autres qui sera pauvre. Et c'est contre, ça veut dire que si Dieu, la totalité, ça veut dire que je veux détruire la totalité. Mais naturellement, la totalité ne peut pas l'admettre. C'est ça, c'était le deuxième stade. On a le droit de prier pour soi-même. Et ces micro-individus, si ça peut être pas désavantageux pour la totalité. Je voudrais aussi mentionner, je vous l'ai déjà fait à la commence, Martinus a une définition, je crois que tous les gens peuvent accepter. La prière, c'est une communication avec Dieu. C'est naturel. Communication avec Dieu, c'est la prière. Mais il dit, toutes les expériences de la vie, c'est de la prière. Parce que tous les êtres vivants sont des cellules dans le corps de Dieu. Ça veut dire, s'il y a un homme qui est agressif envers moi, un homme qui est très gentil avec moi, c'est mon karma, mais c'est le Dieu qui parle à moi. Il n'y a pas des choses à ça. Toutes les choses qu'on a vécues, c'est toujours, c'est Dieu qui parle à moi. Par l'intermédiaire des autres hommes. Le loi de karma marche que j'ai envoyé les énergies. Les énergies reviennent à moi, mais il ne peut pas revenir dans un rien. Il doit être des médiums, des matériaux pour le redonner. Et ça veut dire les autres hommes, les plantes, les animaux sont des outils pour Dieu pour me redonner. Mais comme ça, on peut avoir une toute autre relation avec Dieu si on comprend Dieu parle à moi tout le temps. Normalement, on pense que la prière, c'est seulement une télépathie. On peut se mettre seul et prier à Dieu et concentrer. C'est une communication télépathique avec Dieu. Mais il y a aussi une communication avec Dieu dans le monde extérieur. Dieu parle à nous. Et ça veut dire, si j'ai un ennemi, je suis furieux avec un autre, c'est un ennemi, c'est totalement illogique. Et c'est aussi si ça va devenir science. Il faut comprendre, si j'ai un ennemi, si je suis en guerre avec mon ennemi, je suis en guerre avec moi-même. Et je suis en guerre avec Dieu. Et les deux choses, c'est les choses les plus idiotes au monde. C'est idiot d'être en guerre avec soi-même. Mais je suis en guerre avec moi-même selon la loi de karma. N'est-ce pas? Si je bats un autre, je bats moi-même. Si je suis en colère avec un autre, ça revient. C'est idiot. Si je fais de malheur à un autre, je le fais à moi-même. Et en outre, cet ennemi, c'est une cellule dans le corps de Dieu. Et c'est ce qui, la vie, Dieu est toujours, on parle toujours, je ne crois pas en Dieu, je n'ai jamais vu le Dieu. C'est presque, c'est une petite blague ou analogie. C'est dans l'océan, il y a un poisson très sage. Et cet poisson va faire une conférence pour les autres poissons. Et cette poisson très sage, aujourd'hui, je veux parler de quelque chose totalement nouveau. Je veux parler de l'eau. Vous étiez conçu, vous avez né, vous avez vécu dans l'eau. Il y a un poisson qui proteste. Non, je ne le crois pas. Je n'ai jamais vu de l'eau. L'eau n'existe pas. Je n'ai jamais vu l'eau. Mais quand même, la poisson vit dans l'eau. Et c'est la même chose. Les gens disent, je ne crois pas à Dieu. Je ne crois pas à Dieu. Je n'ai jamais vu Dieu. Mais tout ce qu'on peut voir, c'est Dieu. On ne peut rien voir que Dieu. Et c'est aussi intéressant, toutes les choses qu'on fait envers les autres. Il y a des gens qui disent, oui, j'ai beaucoup des ennemis, mais j'ai une bonne relation avec Dieu. C'est un mensonge, selon Martinus. Il y a aussi dit, j'ai une belle relation avec tous les animaux, les animaux, mais mon relation à Dieu n'est pas bonne. C'est aussi un mensonge. Parce que si on a une relation très bonne avec tous les êtres vivants, avec les gens, et comme ça, on a aussi, c'est pas possible de dire, j'aime Dieu, mais j'ai beaucoup des ennemis. Parce qu'on n'a pas compris que Dieu est aussi représenté dans le monde extérieur. Mais ce que je voulais dire, c'est parce que quel est le but de la prière? Au commencement, on prie seulement pour avoir de l'aide. Martinus parle le commencement, le principe de la prière, c'est dans le règne animal. S'il y a un petit animal qui est attaqué, il y a un cri. Un cri, il a peur de mort, c'est un cri. C'est le commencement de la prière. Mais c'est dans la forme le plus primitif, parce que la prière, c'est « aidez-moi ». Et c'est aussi « aidez-moi », donnez-moi de l'argent, un partenaire, donnez-moi une maison. Au commencement, c'est ce qu'on veut avoir, une chose. Dans le deuxième stade, on peut accepter son karma, mais on veut avoir de l'énergie, de force. Mais sur un niveau, selon moi, c'est le troisième niveau, on peut utiliser la prière comme un guide, comme un guide. De temps en temps, on ne sait pas quoi faire. Est-ce que je dois faire ça ou ça? Et Martinus a raconté quand il était enfant, il a eu une prière. Il ne savait pas quoi faire. Il a prié de savoir est-ce que le Christ pourrait le faire. Il pourrait subitement sentir, oui, le Christ pourrait le faire, et Martinus, il l'a fait. Il y a d'autres situations, il a senti, le Christ ne pourrait pas faire une chose comme ça. Il ne l'a pas fait. Et ça veut dire, Martinus, il était né outre mariage, et il est dans des conditions très pauvres. Mais dans ce fait, il a eu une élévation parfaite, éducation parfaite, parce qu'il était en fait éduqué par Dieu. Parce que déjà, comme enfant, son relation avec Dieu était tellement évoluée qu'il a déjà fonctionné comme un petit enfant et il a toujours pu sentir qu'est-ce que le Christ voulait faire. Et il a recommandé à tous les gens, si on ne veut pas quoi faire, on pourrait imaginer qu'est-ce que le Christ voudrait faire. Et de temps en temps, on a déjà la réponse. Mais on peut prier à Dieu, que faire? Et si on veut, je veux pratiquer l'amour du prochain. Je veux faire le bon, mais je ne sais pas ce qui est le mieux, ce qui est le mieux. Et si on prie à Dieu, je veux faire mon mieux, je veux faire ce qui est le bon, mais je ne sais pas. Dites-moi, quel est le bon? Et Martinus dit, c'est très très facile pour un ange gardien de mettre la juste idée dans la tête. Parce que si on a dit, moi, je peux prendre des souffrances, je peux travailler pour les autres, je peux faire les choses, je n'ai pas peur de faire un effort, je n'ai pas peur de faire un effort, je veux être un avantage pour la totalité. Je veux servir les autres, mais montrer à moi qu'est-ce qui est le mien, le mieux. Et comme ça, c'est un autre, tout autre niveau de la prière. On utilise la prière comme un guide. Montrez-moi ce qui est le bon. Et Martinus garantit qu'on peut avoir, je crois que c'est presque une petite intuition. De temps en temps, on peut le sentir dans le centre de soi-même, comme la première idée. On a eu une pensée, une idée, et souvent, c'est la réponse. Mais peut-être est-ce qu'on n'a pas la réponse immédiatement, peut-être est-ce qu'on voit un programme de la télé, on peut écouter une conférence, on peut lire un livre, et subitement, on a écouté quelque chose et on sait, c'est le juste. C'est ce qu'on doit faire. Comme ça, c'est très important et on peut aussi développer une souveraineté mentale parce que de temps en temps, on veut avoir la bonheur, la richesse, la santé, mais si on a une telle attitude qu'on dit « je peux souffrir, je peux travailler, je veux être un avantage », pour les autres. Ça donne aussi beaucoup de l'énergie. Ça veut dire, on peut prendre les situations ténébreuses. Ça veut dire, on peut accepter des choses qui sont désagréables. Parce que mon intention, c'est, je préfère que je souffre, que je suis la cause de la souffrance des autres. On est sur un autre niveau. On peut dire, quel est le plus important? Pour moi, d'éviter la souffrance ou pour être la cause des souffrances des autres. Et c'est aussi, on commence de s'approcher à la comportement du Christ, n'est-ce pas? Parce que c'était la parole, la morale du Christ qu'il préférait de prendre les souffrances sur soi. Et c'était pour Martinus le comble, la culmination de sa mission, c'était quand il a été crucifié. Il a pris beaucoup, beaucoup de souffrances pour aider les frères plus jeunes dans l'évolution. Il voulait montrer qu'il faut pardonner dans tous les cas. Dans tous les cas. Si on est torturé, si on est tué, il n'y a pas de limite. Il faut toujours dire, Père, pardonne-leur. Il n'était pas en colère. Il ne s'est pas fâché. Il a eu l'amour, c'est l'amour maximal, c'était la culmination de l'amour. Et il a volontairement sur soi pris cette souffrance pour aider les frères plus jeunes dans l'évolution, pour qu'ils puissent avoir un idéal. Il a montré le juste voie pour eux. Et c'est toujours ce qu'il a dit, que c'est mieux de prendre les souffrances sur soi-même, d'être la cause des souffrances pour les autres. Et si on commence d'utiliser la prière dans cette manière, il y a beaucoup, beaucoup de la magie, parce qu'on est sur la même longueur d'onde comme le Dieu. Et dans ces cas-là, on peut prendre beaucoup de souffrances. Il était une fois où Martinus lui-même était hospitalisé, et les amis, ils pensent que Martinus souffre des choses comme ça, mais il a seulement répondu, je peux prendre beaucoup de souffrance. Je peux accepter beaucoup de souffrance. Et c'est une attitude qu'on peut développer de plus en plus. C'est pas grave, je peux prendre la souffrance. Mais naturellement, ici, il y a aussi la loi de karma. Si j'ai le cœur pour souffrir les autres, je peux souffrir moi-même. Si on veut soi-même éviter la souffrance, Il faut changer et de ne pas être la cause des souffrances des autres. Si on dit, je peux prendre la souffrance, peut-être est-ce qu'on a sauvé. C'est un petit exemple du Bible avec Abraham. Il était un croyant, il voulait faire la volonté de Dieu. Et Dieu l'a demandé, est-ce que tu veux faire toutes les choses que je te demande? Est-ce que tu peux donner toutes les choses pour moi? Est-ce que tu peux éviter ou donner toutes les choses? Oui, mais quel est le plus cher pour toi? C'était son fils. Mais si Dieu voulait avoir le fils, qu'est-ce que tu dis? Mais Abraham, il dit, oui, si Dieu veut le plus précieux pour moi, si Dieu veut avoir mon fils, prenez-le. C'est aussi une souveraineté mentale, parce qu'on est intouchable. On ne peut pas me faire malheur à moi. On peut prendre ce qu'on veut. Et on peut me tuer, mais on peut se tuer. Ça veut dire qu'on peut graduellement développer une souveraineté mentale. Et c'est le résultat qu'on est sur la même longueur que Dieu. On est toujours prêt de faire les choses comme le Dieu. Mais l'Abraham était sauvé parce que quand il a montré à Dieu qu'il voulait donner le fils à Dieu, Dieu a dit du ciel, stop, c'est pas nécessaire. Il était sauvé parce que je l'appelle moi-même l'effet de Abraham. Il était sauvé par l'effet de Abraham. Mais c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on a des souffrances? C'est pour le vivre soi-même. S'il y a une mère qui a une fille avec beaucoup de souffrances, si c'était la possible, la mère voudrait prendre les souffrances sur soi pour que l'enfant pourrait l'éviter, n'est-ce pas? Ça veut dire, si on a une telle attitude qu'on voudrait bien prendre la souffrance, pourquoi souffrir? Parce que toutes les choses dans la vie ont un but. Et si on a des souffrances, c'est parce qu'on doit apprendre quelque chose. Et à la fin, on a tellement beaucoup souffert, on n'a pas le cœur pour voir les souffrances d'autres. On ne peut pas accepter les souffrances d'autres parce qu'on sait qu'est-ce que c'est que ça. Ça veut dire qu'on a développé la compassion, l'amour du prochain, mais c'est grâce à les expériences, c'est grâce à ça qu'on l'a développé. Ça veut dire, sur un niveau plus élevé, on peut dire que la prière, c'est pas de prier d'avoir quelque chose. Ça devient de plus en plus, on peut dire, une communication avec Dieu. Et le stade le plus haut dans la prière, peut-être ça peut apparaître un peu banal, mais c'est d'avoir un ami en Dieu et qu'on veut seulement parler avec Dieu. Et comme je dis, la prière, c'est une communication avec Dieu. Et on peut développer une relation personnellement à Dieu. Naturellement, au commencement, Dieu, qu'est-ce que c'est que c'est dans le plein air, dans le ciel, je ne peux rien voir. Dieu, qu'est-ce que c'est que c'est, je ne le connais pas. Et si on dit, tout l'univers, c'est une personnalité, c'est une être vivant, ça veut dire... Tout ce qui existe, tout le cosmos, tout l'univers, c'est un être vivant. Comment est-ce vraiment possible de faire connaître cet être vivant énorme? Oui, selon Martinus. Et on a un exemple dans la Bible. On peut lire comment le Christ a parlé avec Dieu, comme on parle avec un ami. Et Martinus lui-même, il a dit, presque tout le jour, il a... Comment dire, prier à Dieu ou parler avec Dieu. Ça veut dire, Martinus pense que la prière devrait être un processus intellectualisé. Parce qu'on automatiquement répète des mots. C'est pas, peut-être pas dangereux, mais c'est pas le but de la prière. Le but de la prière, la prière développée, c'est un processus intellectuel. Naturellement, on a le droit de prier notre Père, mais en fait, le but de la prière, c'est d'avoir des choses personnelles. Mais Martinus a recommandé, il peut le recommander une fois par jour de prier notre Père, mais pas comme quelque chose automatiquement, mais on peut penser et comprendre ce que les mots veulent dire, mais il dit, on peut ajouter tout ce qu'on veut, on peut parler avec Dieu, avec tous les grands problèmes et tous les petits problèmes. Et si on veut jouer le piano, il faut s'entraîner de pratiquer. C'est une question d'évolution. Et c'est le même la relation avec Dieu. De faire connaître le Dieu, c'est un processus d'évolution. On ne peut pas se décider maintenant, je veux être ami avec Dieu. C'est un processus et ça peut durer plusieurs vies. Il y a beaucoup des athées, des matérialistes qui ont entré dans la spiritualité grâce à les livres de Martinus. Parce qu'il y a beaucoup qui est croyant, il y a beaucoup des religions, des sectes, il n'y a pas de manque de ces choses-là. Mais Martinus a fait une entrée dans la spiritualité intellectualisée, avec des analyses logiques, avec l'intelligence. Et comme ça, j'ai vu beaucoup de gens qui s'est commencé d'intéresser pour la cosmologie grâce à les principes, les lois de la vie, mais il ne peut pas prier, il ne sait pas croire Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Mais on peut commencer de s'entraîner. S'il y a un homme, je ne le connais pas, comment est-ce qu'on ferait des amis? Il faut être ensemble et parler, être ensemble et parler. Et après un certain temps, on peut développer une amitié, on connaît ça très bien. On sait aussi s'il y a deux gens, ils étaient époussés pendant 50 ans. On sait presque ce que l'autre veut dire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une relation très intime si on parle beaucoup. Et c'est le même avec Dieu. Et ça veut dire, c'est un entraînement très long, mais il faut parler avec Dieu. Et c'est peut-être le plus important dans l'évolution de cette souveraineté mentale, parce qu'on sait toujours, Dieu avait été avec moi dans toutes les choses, et on peut prendre les souffrances, parce qu'on sait, c'est quelque chose que le bon Dieu veut pour aider moi. C'est tellement important de comprendre le sens dans les souffrances. On devient de plus en plus souveraine si on peut voir le sens dans les souffrances. Et s'il n'y a pour un homme, les autres sont les causes. Nous vivons seulement une fois. C'est une absurdité. On n'a pas beaucoup de force pour prendre les souffrances. On croit dans une seule vie, on croit je peux me suicider et le problème est solué. Mais pas du tout. C'est pas le thème de cette, mais c'est pas bien de se suicider parce que les problèmes vont revenir dans la vie à suivre. Et après, c'est pas agréable parce que quand on meurt, on est dans les mêmes pensées. Après la mort, les pensées ne se changent pas, mais le corps physique va disparaître. Et on a eu des pensées noires et grises, et ils continuent, et on va vivre dans cette presque purgatoire. On vit dans le monde de ses propres pensées. Mais pour finir cette conférence, il y a aussi des questions. Après, on peut dire que le but de la prière, c'est d'avoir un ami, c'est de devenir ami avec la vie, c'est de devenir ami avec Dieu. Martinus a dit qu'il a tellement aimé Dieu, il a tellement aimé la vie, mais souvent on a peur de la vie. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Quelle catastrophe est-ce qu'il va venir? On a, de temps en temps, on peut peur de la vie et on pense que la vie c'est très lourd et c'est bien de développer la vie c'est quelque chose pour moi. La vie c'est un avantage pour moi. La vie veut m'aider dans tous les cas. Et maintenant j'ai dit la vie au lieu de Dieu, mais on peut dire la même chose. Dieu est un avantage pour moi. Dieu est un pour moi. Dieu est mon ami. Dieu veut toujours m'aider. Mais il y a de temps en temps, je me mets en fâche, en colère. Mais c'est seulement parce que je dois vivre les conséquences de mes propres actes. La loi de karma, c'est pas punition, c'est pas revanche. C'est seulement que je peux vivre les effets de mes propres actes et manifestations. Et c'est souvent très désagréable. Mais je suis la cause moi-même. C'est pas la revanche de Dieu. Au contraire, Dieu peut m'aider de devenir un homme achevé, un homme parfait. Ici, il y a un petit livre, Le destin de l'humanité. Et c'est on peut voir tout la cosmologie. Et Martinus a aussi, comme dans la géographie, il y a des cartes. Et Martinus a aussi fait des gravures, des symboles pour le monde spirituel, pour exprimer les lois. Et il a aussi fait une représentation symbolique de Dieu. Ces symboles, c'est un symbole de tout l'univers. C'est un symbole de Dieu. Ici, c'est le moi de Dieu et c'est tout l'univers. Mais il y a aussi des petites parties blanches ici. C'est le moi des êtres individus. C'est le règne minéral, le règne végétal, le règne d'animal. Ici, avec l'étoile, on a la conscience cosmique. On ferait un avec la conscience de Dieu. On peut dire aussi le but de la prière, le but de notre relation avec Dieu. C'est à la fin d'être un avec la conscience de Dieu. C'est avec les propres sens de vivre que je suis un avec Dieu. Et on peut vivre la nature de la conscience de Dieu. Et c'est l'amour, l'amour du prochain. Il y a des choses avant qui étaient très douloureuses. On a beaucoup souffert. Mais quand on a cette conscience cosmique, on peut vivre. Ce que j'ai cru, c'était les ténèbres, les choses mauvaises. C'était en fait l'amour déguisé. Et on peut vivre avec ses propres sens. C'est seulement l'amour qui existe. Les choses désagréables existent, mais c'est bon. C'est bien avec le contraste et c'est bon pour mon évolution de mes sentiments. C'est comme ça. Et après, il y a des mondes spirituels, c'est le règne de l'homme achevé, le règne de sagesse, le monde divin, le monde de béatitude, je ne veux pas les décrire, mais c'est en fait un symbole de tout l'univers, de tout, et c'est en fait un symbole de notre ami. Notre ami, c'est Dieu. Merci pour l'attention. Merci.